Voici le journal d'Adrien Taufollet. Bonjour Adrien.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec ce matin une question à la une, est-ce que le Tour de France est d'ores et déjà plié? Le tenant du titre, Tadej Pogacar, a dominé l'étape d'hier dans les Alpes. Il n'y avait aucune concurrence. Une semaine après le départ, il est déjà pressenti comme le vainqueur de ce Tour 2021. Les autres titres, Adrien?
Pas de temps à perdre. Il faut se faire vacciner contre le Covid, exhorte la communauté médicale. La rentrée se joue dans les 15 jours à venir. Alors à Montbéliard, on organise la vaccination dans la rue, vous l'entendrez. Les opposants à l'extrême droite, mobilisés hier à Perpignan, où se déroule le congrès du Rassemblement National. Les anti-Bolsonaro qui montrent à nouveau leur détermination à faire partir le président brésilien. Et puis promenade dans les rangées du cimetière du Père Lachaise avec les fans de Jim Morrison, le chanteur des Doors, enterré là-bas il y a 50 ans.
L'invité ce matin à 8h20, ce sera l'économiste Jean-Joseph Boileau. Il est spécialiste des pays émergents et il signe chez Odile Jacob Utopie Made in Monde, le sage et l'économiste.
France Inter.
C'est un prodige du vélo à seulement 22 ans et assurément un grand champion. Tadej Pogacar a littéralement assommé ses adversaires hier lors de la 8e étape du Tour de France. Dans l'ascension du col de la Colombière, le Slovène a distancé un à un tous ses concurrents et conquis le maillot jaune à la force des jambes. Si bien qu'à la fin de la première semaine de la grande boucle, on ne voit déjà plus qui pourrait lui contester son deuxième sacre à Paris, Fanny Lechevestrier.
Certainement pas Primoz Roglic, deuxième du Tour l'an dernier, ni Geraint Thomas, vainqueur en 2018. Les chutes du début de semaine ont renvoyé les deux champions juste devant la voiture balai hier, les deux coupant la ligne d'arrivée ensemble à plus de 35 minutes, compagnons de galère et de souffrance. Après, à l'image de Warren Barguil, aucun coureur ne veut se dire que tout est déjà fini avant même la fin de la première semaine.
C'est long le Tour, hein. Il y a encore plein d'étapes et aussi des étapes peut-être à bordure, donc c'est là où il faut qu'il se méfie, je pense.
Une bordure qui ferait perdre plus de 5 minutes à Pogacar, le supersonique. 5 minutes, c'est l'écart que le Slovène a avec l'équatorien d'Ineos, Richard Carapaz, ou l'Espagnol de la Movistar, Enric Mas, encore dans le top 10. Beaucoup en doute et regardaient plutôt déjà hier soir quel était le plus gros écart entre un vainqueur du Tour et son dauphin. En 1984, Laurent Fignon l'avait emporté avec 10 minutes 32 secondes d'avance sur Bernard Hinault.
Et avant une journée de repos bien méritée demain, il faudra encore le défendre, ce maillot jaune. Aujourd'hui, 9e étape, toujours dans les Alpes, 145 km entre Cluses et Tignes. Un mot de football pour refermer la page des sports. Avec l'Euro, le Danemark poursuit sa belle lancée. Victoire contre les Tchèques hier, 2-1. Et puis l'Angleterre a giflé l'équipe ukrainienne 4-0, ce qui donne le carré des demi-finales suivants. Italie-Espagne qui joueront mardi et Angleterre-Danemark le lendemain.
Face aux variants Delta, on ne compte plus désormais les appels à se faire tous vacciner.
Dernière en date et pas des moindres, le professeur Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement. Ceux qui attendent commettent une erreur, dit-il dans une interview ce matin au journal du dimanche. Le spectre du variant Delta plane au-dessus de nous. Tout se joue dans les 15 jours à venir, selon lui. Un peu plus de 24 millions de Français sont protégés par deux doses et tout est fait pour inciter les autres à aller se faire piquer la deuxième dose sur son lieu de vacances. Ce sera possible dès demain. On vaccine de plus en plus sans rendez-vous aussi, comme à Montbéliard, dans le centre-ville, en pleine rue Hervé Blanchard.
Ici, on vaccine. Le message inscrit sur la tente ne peut pas être plus clair. Alors René, 49 ans, qui a eu sa première dose début juin, décide de devancer l'appel de la seconde injection.
C'est motivé avec mon épouse et pour pouvoir partir en vacances et être tranquille, quoi.
Et sa compagne Nathalie a aussi décidé de se faire vacciner sans rendez-vous dans un but bien précis.
On est de mariage samedi prochain, donc ça tombe bien, au moins si besoin. On a pas sanitaire, il est ok au moins.
De son côté, Sébastien a opté pour la proximité.
Tout près de ce lieu de vaccination là, qui est un peu inédit. La Roselière, pour moi, c'est une trop grande salle.
Et pour Jean-Jacques Hézard, responsable des ambulances Jussieu Secours, partenaire de l'opération, cette vaccination en pleine ville, sans rendez-vous, touche un public différent.
On a beaucoup de demandes sur du personnel qui travaille, qui nous disent aujourd'hui que c'est pratique d'être quitte de prendre un rendez-vous au centre de vaccination. Mais c'est la proximité, en fait la facilité qui les décide au dernier moment.
Et Johan, cuisinier de 36 ans à Montbéliard, en a justement profité.
Sur les horaires de la restauration, vu qu'on fait énormément de monde, on n'a pas le temps de créneau pour prendre des rendez-vous. Donc ça vient dans la ville, pour nous c'est beaucoup plus simple entre deux services, de venir se faire vacciner vraiment pour avoir la première injection. Donc c'est vraiment très avantageux. pour nous.
Une petite trentaine de personnes s'est fait vacciner lors de cette journée sans rendez-vous en centre-ville de Montbéliard.
Et la pression grandit sur les personnels hospitaliers de maisons de retraite avec un projet de loi du gouvernement qui serait dans les tuyaux. Ce matin, Alain Fischer se dit favorable à la vaccination obligatoire pour eux, tout comme la centaine de médecins qui publient une tribune sur le site du JDD pour demander que le milieu des hôpitaux et des EHPAD soit vacciné avant septembre. Dans l'Aude, l'incendie de forêt dans le massif de la Clap, tout près de Narbonne, est fixé. Il ne progresse plus, disent ce matin les sapeurs-pompiers. 250 hectares sont partis en fumée. Le sous-préfet appelle tout de même les habitants de la région et les touristes à éviter le secteur. En route pour la présidentielle, le Rassemblement national motive ses troupes ce week-end à Perpignan. Malgré la défaite de son parti au régional, sans victoire nulle part, rien n'est perdu, disait hier Jordan Bardella devant les militants. Et pendant ce temps, à l'extérieur du Palais des Congrès, près de 2000 personnes ont manifesté. Répondant à l'appel d'une trentaine d'organisations politiques, syndicales et associatives, locales et nationales, dont la CGT, le DAL ou encore Europe Écologie, les Verts et le NPA. Pour ces manifestants, Tanguy Bocconi, il était essentiel de montrer que malgré l'élection de Louis Alliot à la tête de la ville, l'extrême droite n'est pas en terrain conquis à Perpignan.
Malgré une chaleur étouffante, ils sont venus par centaines sur la place de Catalogne pour clamer leur rejet de l'extrême droite. Viviane, une Perpignanaise, vit très mal la tenue de ce congrès du Rassemblement National.
Il y a des quarts de flics partout, le palais des congrès, il y en avait 12, je les ai comptés. La ville qui pavoise bleu, blanc, rouge d'un coup, qu'est-ce qui se passe quoi? On est catalans, on est issus tous de la retirade. C'est l'exil des républicains espagnols en 1939, massivement, qui sont arrivés ici. On est les enfants de ça, quoi. Et donc on ne veut pas qu'ils viennent nous expliquer la blancheur de leurs idées et tout. Pour moi, ça ne passera jamais.
Un sentiment partagé par Jean-Louis qui ne croit pas à la normalisation du RN.
Un parti qui a dans son sein des gens qui revendiquent haut et fort des propos racistes, xénophobes, même s'ils tentent de jouer le jeu de la démocratie, pour moi, il n'a pas sa place.
Venu de Barcelone, Marty, lui, croit encore à un sursaut des consciences.
La peur de l'étranger, la fermeture des frontières, pour le futur, c'est impossible. C'est pour ça important de partager d'autres valeurs, de récupérer l'esprit de l'humanité face à l'individualisme de l'extrême droite.
Des manifestants qui se sont dispersés dans le calme en fin d'après-midi, à bonne distance du Palais des Congrès de Perpignan pour éviter tout risque d'incident.
Tanguy Bocconi de France Bleu Roussillon.
Au Brésil à présent, le front anti-Bolsonaro était à nouveau dans la rue hier.
Troisième grande journée de mobilisation contre le président brésilien. Des cortèges dans des dizaines de villes à travers le pays. Jair Bolsonaro est non seulement critiqué pour sa gestion de l'épidémie de Covid, il est aussi dans la tourmente après les révélations d'un scandale de corruption autour de l'achat de vaccins. Alors dehors Bolsonaro, criaient les manifestants, comme l'a entendu Jean-Mathieu Albertini à Rio de Janeiro.
Dehors, Bolsonaro crie en chœur, les milliers de personnes présentes dans les rues de Rio de Janeiro. Le message a le mérite d'être clair et il est répété aux quatre coins du pays. Prévu à la fin du mois, ces manifestations ont été anticipées après les récentes révélations de malversations lors de l'achat de vaccins. Christiana vient de perdre un proche victime du Covid-19, visiblement abattue. Elle est venue manifester pour la première fois à cause de ce nouveau scandale.
On ne peut plus rester silencieux. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent être révélées. On est ici pour faire pression, pour que justice soit faite, au nom des plus de 500 000 vies perdues.
Si tous espèrent la destitution du président, beaucoup, comme Raphaël, sont conscients que c'est loin d'être gagné.
Le gouvernement dispose encore d'une base très fidèle, donc je ne suis pas sûr qu'il puisse être destitué. Mais ce n'est pas l'impeachment qui importe tant maintenant. Il faut surtout affaiblir ce gouvernement. On va l'affaiblir et ils ne vont pas passer lors des élections présidentielles de 2022.
Après trois mobilisations en deux mois, le mouvement contre Jair Bolsonaro n'est pas encore massif, mais il semble gagner en consistance. D'autres mobilisations d'ampleur sont déjà prévues durant le mois de juillet. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour France Inter.
Une entreprise américaine victime d'une cyberattaque et c'est des conséquences partout dans le monde. La société américaine Kaseya qui conçoit un logiciel de gestion utilisé par plus d'un millier d'entreprises. C'est comme ça que l'attaque s'est propagée sur toute la planète. En Suède notamment, 800 supermarchés d'une grande chaîne ont dû fermer le système informatique à l'arrêt. Impossible de faire marcher les caisses. Quel mot aurait-il écrit sur l'époque actuelle? Probablement des vers de poésie. Voilà 50 ans que Jim Morrison est parti partie. Le chanteur des Doors est mort d'une overdose à Paris le 3 juillet 1971. Il repose au cimetière du Père Lachaise dans le 20e arrondissement de Paris, un lieu de pèlerinage depuis Caroline Félix.
Les fans Michel, cheveux blancs et t-shirt des Doors, elle est assise au milieu des pierres tombales. Pour elle, ni fleurs ni petits mots, elle a apporté autre chose.
Un téléphone. Alors vous pouvez appeler Jim, vous voulez essayer? Et puis j'ai écrit à la peinture, 50e anniversaire, le roi lézard, light my fire. Si je pouvais vraiment lui parler, je lui dirais merci, merci pour les chansons, les poèmes et les bons amis.
Michel revient chaque année et retrouve Ico qui fait le pèlerinage tous les 5 ans depuis l'Allemagne.
En 1991, on a fait une grosse fête en face du cimetière et on n'avait pas le droit de rentrer dedans. La police voulait nous faire partir, mais on a insisté, on a pu rentrer. C'était génial.
Il boit un verre de whisky, en verse par terre. Pour Jim Morrison, Ico est l'un des seuls à avoir vu les Doors en concert. Pas le cas de Lucia, une Tchèque de 20 ans, mais elle est très émue.
C'est incroyable d'être aussi près de quelqu'un que j'écoute tous les jours. C'est un artiste extraordinaire. Il avait une très belle voix, mais il avait surtout une personnalité hors norme.
Pour Yamina aussi, c'est une première.
En tant que fan des Doors, c'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie, quoi. Là, ouais, c'est étonnant de voir que finalement on n'est pas seul et qu'il y a toujours autant de monde.
Yamina qui est venue spécialement de Rennes.
Et Jim Morrison, immortel, c'est l'occasion, pourquoi pas, de se replonger dans l'indémodable discographie des Doors.
Come on baby, light my fire, Adrien Toffolet pour le journal. Le temps de ce dimanche.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Jean-Michel Golinski, ce sont à peu près les mêmes conditions qu'hier.
En effet, avec des averses et des orages qui vont balayer le pays vers l'est dans la journée, tandis qu'au fil du temps, les régions de l'ouest vont retrouver des conditions plus clémentes. La Corse, quant à elle, va totalement rester à l'écart. En début de matinée, une large moitié ouest du pays est déjà impactée par les averses et parfois les orages. Comme les loups, ils sont déjà entrés dans Paris et tout ceci va gagner vers la Belgique, les frontières de l'Est dans le courant de la journée, tandis qu'à l'arrière, par l'océan, l'accalmie sera appréciable. Les températures voisines de 25 à 28 degrés près de la Méditerranée vont enregistrer une baisse plus sensible sur les autres régions, avec par exemple 6 degrés de moins qu'hier près de la Suisse et de l'Allemagne.
Jean-Michel Golinski, Météo France.